ce que je pense dans le débat qu'on a aujourd'hui et où on n'a pas énormément de temps. Et ajoutons que c'est un débat qui n'est pas tellement fréquent et dont tout le courant révolutionnaire a besoin, un débat très fondamental. Je crois qu'il faut distinguer, pour avancer, les contradictions secondaires qu'il peut y avoir entre paysans et ouvriers pour tenter de les résoudre et en les situant précisément, pour ensuite aussi faire cette unité tout à fait indispensable contre l'adversaire fondamental, le capitalisme, la bourgeoisie, le pouvoir en place. Il est vrai qu'il y a entre nous des contradictions apparentes, mais les paysans travailleurs notamment, et la CFDT dans le tract qu'elle a distribué le confirme, estiment que ces contradictions sont secondaires. Quelles sont-elles? Premièrement, il y a une classe de paysans qui est capitaliste. Les camarades qui sont ici, par exemple de la région parisienne, s'ils veulent voir des paysans, je leur demande de ne pas faire le pèlerinage de Chartres. Ça n'apporte rien. Ou plutôt, vous verrez une catégorie de paysans qui sont nos adversaires à nous aussi. Que ce soit clair, les paysans employeurs de main-d'œuvre, les gros exploitants, les céréaliers, les betteraviers, ceux qui ont cumulé des terres, qui ont profité des rentes de situation, ce sont nos adversaires, ils sont dans le camp capitaliste, et bien entendu, la FNSEA, le CNJA, syndicats patronaux bien connus, sont dans le camp capitaliste. C'est clair. Deuxième élément, les paysans sont propriétaires de leur sol. Soyons, ou le deviennent parfois, il y en a d'abord un bon nombre, il ne faudrait peut-être pas l'oublier, qui sont fermiers dans des conditions difficiles, il y en a même qui sont encore métayers. Mais même ceux qui sont propriétaires, soyons clairs entre nous, je le dis pour les gars qui pourraient croire que partant de là, ils sont nécessairement capitalistes. Le paysan qui devient propriétaire, il passe sa vie entière à rembourser ce qu'il a emprunté. Comme il s'agit de son outil de travail, il ne le réalise jamais. S'il a 4, 5, 6 héritiers, il y en a un qui reprend ça, il paye ça à ses frères et sœurs. Les frères et sœurs s'en vont en ville, ils ont besoin de se loger, ils demandent leur part d'héritage au le plus élevé possible, parce qu'il y a les spéculateurs sur les logements et les terrains à bâtir, hein, vous savez bien. Hein. Et puis, le circuit est fait. On est propriétaire de nos dettes. C'est une propriété rudement illusoire. C'est comme si on disait à un ouvrier, sois propriétaire de ton tour pour être ouvrier tourneur. C'est ça le problème pour nous. Et ça explique pourquoi le mouvement paysan-travailleur a dit que le droit individuel de propriété, et le dit constamment au regard des faits, c'est une aliénation considérable pour les paysans, c'est un moyen de les faire bosser un peu plus. Ils vivent pauvres, ils ont même parfois, on leur donne l'espoir de mourir riches, mais ça n'arrive jamais. Voilà le problème. Bon, deuxièmement, on nous dit, vous êtes propriétaires de vos moyens de production, des outils, des bâtiments, les animaux, vaut mieux pas en posséder trop en ce moment d'ailleurs, ça se vend plutôt mal. Et je vais vous raconter à ce propos un exemple concret. La plus grosse firme en Europe en matière de production avicole, c'est une firme anglaise qui s'appelle Rolls Poultry, avec 120 milliards anciens de chiffre d'affaires. Elle avait monté 95 hectares de poulaillers disséminés dans la nature par 1500 mètres carrés un peu partout en Angleterre. Elle avait placé là-dedans de la main-d'œuvre salariée. Elle était propriétaire de tous les équipements. Enfin, quelque chose de clair, hein? C'était normal. Ben, savez-vous ce qu'elle a fait? C'est le directeur de Rolls Poultry qui le disait dans une conférence en France que la presse nous a rapporté. Ce qu'elle a fait, au bout de 3-4 ans de ce régime-là, elle s'est trouvée devant des gens qui s'étaient syndiqués. Oh, dans un syndicat pas bien méchant, les trade unions en Angleterre, hein, sont pas tellement révolutionnaires, on le saurait. ils s'étaient syndiqués et brusquement, ils ont demandé l'équivalent de près de 3 francs, 300 francs anciens d'augmentation de l'heure. Au bout de 4-5 ans, en menaçant de faire grève, s'ils faisaient grève, il y avait pour environ 25 milliards anciens d'animaux qui crevaient en 48 heures. La firme, ça a duré 24 heures la grève. Elle a donné 300 balles de l'heure. Mais depuis, quitte à les donner, elle a rétrocédé tous les poulaillers, soit aux ouvriers qui étaient dans la, qui étaient d'avance, soit des voisins. Parce que là, le paysan, il est propriétaire non seulement de l'outil, mais on lui facture les poussins, les aliments, les médicaments, ou bien si c'est les porcs, la même chose, les aliments, les porcs, les médicaments, si c'est des veaux, etc. Et si le gars fait grève, eh ben c'est pour sa pomme. Et il ne peut pas faire grève, vous comprenez? Et ça permet de le payer beaucoup moins cher. Alors les gars, ça c'est une contradiction secondaire. L'intérêt du capitalisme, c'est de nous laisser l'apparence de la propriété des moyens de production. Mais en fait, c'est lui et lui seul qui commande. Sachons de quoi on parle quand on parle de ces choses-là. Et j'ajoute un point. Une autre contradiction que je qualifie aussi de secondaire. Par rapport à nos camarades ouvriers. Ils la connaissent bien, nos camarades ouvriers. C'est pour relancer le débat. Ces firmes qui nous ont intégrés, qui ont fait de nous des travailleurs à domicile pour leur compte, qui essaient de nous conserver une mentalité petite bourgeoise en disant quand vous aurez fini de rembourser le crédit, vous verrez, vous serez riche. Manque de peau, quand on a fini de rembourser, les équipements ne valent plus rien, alors on recommence. Mais ces firmes qui nous maintiennent dans leur domination, ben, ce n'est pas les directeurs qui le font d'une manière directe, c'est les salariés des directeurs de firmes. Et oui, on a nous aussi nos contremaîtres qu'on envoie dans l'exploitation pour donner l'ordre aux paysans de faire ceci comme cela ou autrement, pour lui dire tu recevras tes animaux tel jour à telle heure, tu les enlèveras telle nuit à 2h du matin, tu feras tel traitement, tel travail. Vous le savez bien, vous êtes salariés. Je parle à mes camarades qui sont techniciens, techniciens des firmes. Vous êtes salariés, mais on vous demande d'encadrer les paysans. Ça ne veut pas dire que vous soyez nos adversaires. Ça veut dire que sur le terrain, j'en connais plusieurs d'entre vous qui ont choisi délibérément leur camp, qui ne sont pas seulement socialistes le soir autour d'un verre de whisky, mais qui le sont dans la vie quotidienne, qui, quand ils viennent chez le paysan, lui expliquent « Mais regarde donc, tout le travail que tu fournis, si tu le comptes tout, y compris les heures supplémentaires, à combien que t'es payé de l'heure avec ce qui te revient ?» qui permettent aux paysans de comprendre sa situation prolétarienne, finalement, sa situation d'exploité. Mais il y en a d'autres aussi, et je leur dis, et je le dis à mes camarades de la FGA, qui sont là, ben il y en a d'autres qui, quelquefois, considèrent qu'ils sont salariés et que tous les paysans qu'ils vont voir sont une autre race, sont quelque chose de différent. C'est dommage. Voilà une contradiction secondaire qu'il nous faut résoudre si on veut arriver à attaquer collectivement l'adversaire principal, c'est-à-dire le capitalisme. Voilà, j'ai fait un petit résumé de quelques contradictions. J'insiste, je voudrais qu'on s'y attarde point trop.
Privé également. Il y a quand même une chose dans la réalité. Je pense que ce sont les paysans qui, effectivement, aujourd'hui, commencent à se rendre compte du fait que le capitalisme n'est pas un régime sous lequel la paysannerie peut vivre correctement. Cela dit, il y a une autre question, je crois, qui est quand même importante. C'est qu'il y a en France des centaines de milliers de paysans qui ne sont même pas là.